Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, pourquoi les êtres humains se ressemblent-ils et à la fois sont-ils si différents? Quelles sont les sources de cette variation à la base même de l'évolution de l'espèce? Avec nous, notre invité d'aujourd'hui va nous parler d'un nouveau mode d'hérédité. Il a mis en évidence ce nouveau mode d'hérédité avec sa collaboratrice. Il s'agit de François Cuisin. François Cuisin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie, au cœur de l'Institut de France à Paris. Alors, vous êtes professeur des universités et vous êtes membre de l'unité génétique moléculaire de la différenciation et du développement de l'INSERM. Vous êtes donc généticien et vous avez travaillé dans votre carrière avec François Jacob, qui est membre de l'Académie des sciences et également membre de l'Académie française. Vous avez travaillé sur la réplication des génome, il me semble, avec François Jacob. Et puis, dans les années 70, vous partez aux États-Unis, vous travaillez avec un prix Nobel qui s'appelle Paul Berg, et vous travaillez sur ce qu'on appellera bientôt la génétique moléculaire. Vous êtes un de ses précurseurs, un de ses scientifiques, chercheurs, précurseurs dans ce domaine. Vous travaillez également avec Gilles Bécaud, c'est ça ?
Tout à fait.
Donc toujours dans les années 70, et puis vous revenez pour créer en France donc l'unité des virus oncogènes à l'Institut Pasteur, avant de vous installer à Nice, où cette fois-ci vous développez un institut de recherche international au sein donc de cette université à Nice. Alors, vous allez pouvoir nous parler de vos travaux actuels avec votre collaboratrice qui s'appelle Minou Razoul Zadegan, qui est donc d'origine iranienne, comme vous me le disiez tout à l'heure avant de commencer cette émission. Alors, vous allez pouvoir nous expliquer comment Mendel, qui nous avait bien expliqué avec ses petits pois les gènes héréditaires, à savoir des gènes récessifs et dominants qui pouvaient se transmettre à notre descendance, comment vous avez pu mettre en évidence que finalement cette théorie n'était pas tout à fait valable ?
En fait, je crois qu'il ne faut pas être aussi négatif vis-à-vis du malheureux Mendel et de tous ses successeurs qui ont, pendant toute la durée du XXe siècle, construit cette œuvre monumentale qu'est la génétique, dite aujourd'hui classique. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que notre génome, l'ensemble de nos gènes localisés dans nos chromosomes, constitue, ça on l'entend tous les jours dans les journaux, l'information de base pour construire nos organismes. Et la question qu'on peut se poser, que posait déjà Mendel dans les premiers, mais qui était déjà d'actualité donc au XIXe siècle, était comment cette information va être transmise et est-ce qu'elle va être transmise sans être modifiée, strictement identique, de génération en génération. En fait, on pourrait imaginer que, étant donné qu'il s'agit d'un patrimoine, comme on dit aujourd'hui, patrimoine de l'espèce, on pourrait penser qu'on veut maintenir ce patrimoine aussi intact que possible. Mais on sait depuis longtemps que ceci n'est pas vrai, c'est pas possible, parce que, pour beaucoup de raisons, d'abord, il est clair que si nous nous regardons les uns les autres, et si nous regardons les autres êtres vivants aussi, chaque être vivant est unique. Donc le patrimoine s'est modifié. Un enfant qui va naître, on sait qu'il ne sera identique à aucun des individus et des milliards d'individus qui vivent humains sur cette planète. Alors ça, c'est quelque chose qui est évidemment très important, qui est à la base de toutes les philosophies, la démarche de nos sociétés, c'est l'unicité de l'être humain, mais qui est vrai de l'être vivant en général. Et en fait, on sait depuis, ça c'est Darwin qui avait été le grand précurseur, que l'évolution biologique qui a amené la diversité des vivants que nous connaissons, et nous-mêmes en particulier, elle est basée sur le fait qu'il existe une possibilité de variation parmi lesquelles ces variants multiples vont pouvoir être sélectionnés de nouvelles formes. Cette notion de variation, c'est quelque chose qui est très important, qui va nous amener à notre sujet de nos travaux actuelle. Bon, Darwin se posait la question sans du tout pouvoir y répondre parce qu'il n'avait pas les éléments, mais il revient constamment dans ses textes.
Sur la théorie de l'évolution de l'espèce ?
Oui, il revient sur ses textes, sur le fait qu'il faut avoir à chaque espèce des individus différents les uns des autres. Comment ça se fait? On a commencé à le comprendre, effectivement, avec les travaux de Mendel, qui est l'exact contemporain de Darwin, mais dont les travaux ont été redécouverts et amplifiés à partir du tout début du XXe siècle. Et là, on a toute cette construction superbe où on a des chromosomes qui vont, à chaque génération, se recombiner, comme on dit aujourd'hui, réassortir leurs gènes entre ceux qui viennent du père, ceux qui viennent de la mère, pour transférer à chaque génération un jeu nouveau de ces gènes.
Alors peut-être quelques mots pour nos auditeurs, juste pour situer les petites expériences de Mendel. C'est tout simplement avoir des petits pois lisses, des petits pois ridés, et lorsque l'on veut avoir d'autres petits pois, alors soit on va avoir
oui,
que des lisses,
plus...
que des ridés.
Oui. Schématiquement, ça revient à ça, effectivement. Mm-hmm. Ceci dit, l'œuvre de Mendel, quand on regarde de près, est tout à fait remarquable sur le plan de la conception scientifique qui est incroyablement moderne pour son époque. D'abord, c'est pas seulement des pois lisses et des pois ridés, c'est aussi toute une série d'autres caractères. Mm-hmm. Et Mendel avait pris la précaution d'utiliser le pois, ce n'est pas par hasard, parce que le pois est une plante qui se reproduit par autofécondation, c'est-à-dire que les deux cellules qui vont permettre la reproduction sont produites par la même plante, peuvent l'être, et donc on a à ce moment-là un système qui est, à proprement parler, un système de clonage, c'est-à-dire que là on stabilise le génome dans le pois, et donc on peut avoir des individus qui sont aussi semblables que possible, sauf pour le caractère qu'on veut regarder. Et ça a été absolument essentiel. Ce qui fait que tous les spécialistes des plantes en particulier qui avaient travaillé avant Mendel n'étaient arrivés à rien parce qu'on a tellement de gènes différents entre deux, on le sait aujourd'hui, entre deux individus qu'on peut avoir n'importe quoi. Et en plus, alors Mendel a introduit le premier, une notion d'analyse quantitative en regardant sur un grand nombre d'individus et est arrivé à dégager des lois qui sont toujours valables, bien entendu, sur la manière dont ces gènes, il faut qu'il y en ait deux dans une paire pour chaque gène, qui sont ensuite répartis dans la descendance avec une distribution très précise.
Alors, si nous revenons à vos travaux du moment, dans les années 2000, vous avez...
Là, on en est loin, mais on va y arriver dans la mesure où les lois de Mendel, auxquelles s'ajoute la mutation, la possibilité de changer ces gènes. Cependant, on a beaucoup discuté au cours du XXe siècle pour savoir si on avait une possibilité de variation qui pouvait rendre compte de l'évolution. Et en fait, on n'a pas suffisamment de variations à ce niveau-là possible. Un grand progrès a été fait par la suite, à partir des années 1950, à la suite notamment des travaux de Barbara McClintock aux États-Unis, encore un autre prix Nobel, qui a montré qu'une partie du génome pouvait
être à l'intérieur du génome,
d'éléments qui peuvent se déplacer et qu'on a des remaniements, donc à l'intérieur des modifications à l'intérieur du génome.
Une espèce de mobilité à l'intérieur du génome.
Alors, ce qui restait, en fait, qu'on considérait comme acquis, c'est que quand une paire de deux gènes sont ensemble dans un individu et qui vont donc en ressortir, pour ainsi dire, être redistribués dans les spermatozoïdes et les ovules pour la génération suivante, les gènes ressortent, disons, intacts. Ils ressortent sans avoir été modifiés. Les modifications qu'il peut y avoir sont des réassortiments de ces ensembles de gènes entre eux, mais chaque gène va se retrouver avec les propriétés qu'il avait précédemment. Et ceci, on a commencé à remettre les choses en cause il y a quelques années.
Dans les années 2000 ?
D'abord chez les plantes, où on a trouvé un phénomène qu'on a appelé paramutation. Les généticiens des plantes qui disent que lorsque un gène se trouve confronté à un autre gène dans une plante, comme on appelle techniquement hétérozygote, c'est-à-dire avec deux copies différentes, un gène peut ressortir en étant modifié dans ses propriétés et dans son expression, et dans la manière dont il va gouverner les caractères, à la génération suivante. Et en fait, là, on arrive très directement au travail que nous avons publié récemment, ça représente plusieurs années de travail, parce que nous travaillons sur la génétique de la souris, la souris, c'est un animal qu'on peut maintenir dans des grosses animaleries que nous avons en grand nombre, mais quand même en nombre limité, et surtout un animal qui va prendre plusieurs mois pour se reproduire. Donc pour le généticien, chaque expérience s'étale sur un certain nombre de mois, voire d'années, pour avoir plusieurs générations et pouvoir suivre des caractères. Alors ce que nous avions avec ma collègue, donc Minou Rasoulzadegan, Minou en abrégé pour tout le monde, dans le monde scientifique, c'est qu'elle était tombée sur cette observation assez étonnante que nous avions un gène qui modifiait la couleur du pelage de la souris de façon très caractéristique, avec une partie de la queue blanche et les pattes blanches. Et en fait, lorsque ce gène est confronté au gène, ce qu'on appelle en génétique de type sauvage, c'est-à-dire le gène qui n'a pas subi de modification, nous avons donc cette structure avec les deux gènes différents qui nous donne ce caractère à queue et pattes blanches. L'avantage, c'est que c'est quelque chose qu'on voit, il suffit de se pencher sur la cage de la souris pour voir qu'elle a les pattes blanches. On n'a pas besoin au départ d'une analyse moléculaire compliquée. Ça a toujours été la démarche de la génétique, c'était les pois lycéridés de Mendel, ça a été les drosophiles ensuite avec des yeux rouges ou des yeux blancs, etc. Et là, en voyant simplement dans les cages, on s'est aperçu que normalement, lorsque l'on croise entre eux deux individus qui ont chacun donc un gène sauvage, on doit avoir dans la descendance la fraction que Mendel avait prédit de descendants qui ont les deux gènes sauvages, hein, venant de chacun.
Parce que c'est un gène dominant ?
Non, parce que simplement, à la génération suivante, on a une ségrégation qui fait que on n'a plus que le gène sauvage. Mmh. Il n'y a plus de dominant et de récessif, on a deux copies du gène sauvage, point. Et on sait que normalement, dans ces cas-là, on retrouve les caractères qui vont avec le sauvage.
Et là, justement, ce n'est pas le cas.
C'était clair que dans la descendance, pratiquement toutes les souris gardaient la queue blanche. Alors, ou bien le sauvage avait été éliminé de la descendance, ou bien le sauvage conservait ce caractère particulier qu'on ne connaissait jusqu'ici qu'associé au gène mutant.
Oui.
D'accord ? Et à ce moment-là, bon, il a fallu passer au niveau moléculaire pour montrer que les gènes dans la descendance, on retrouvait effectivement les gènes sauvages comme prévu par Mendel. Et il n'y a pas ici d'exception à la loi de Mendel puisqu'on a une distribution de ces deux gènes mutants et sauvages dans la descendance qui fait qu'une fraction de la descendance porte les deux copies du gène normal sauvage. Seulement, ces copies se sont trouvées modifiées du fait qu'elles ont été confrontées avec le gène mutant dans la génération précédente. Et ça, c'est contraire aux lois de Mendel, si on veut, parce que c'est, en fait, ça nous dit qu'un gène ne ressort pas forcément intact de sa confrontation avec une autre forme du gène. C'est exactement ce que les généticiens du maïs en particulier, puis d'autres plantes, avaient découvert, il y a beaucoup de travaux depuis, sur ce qu'ils avaient appelé paramutation, c'est-à-dire cette modification qui n'est pas, contrairement à la mutation classique, qui est une modification de la structure, c'est-à-dire on sait aujourd'hui de la séquence des bases qui constituent le message dans la molécule d'ADN. Contrairement à la mutation, il n'y a pas de modification du message lui-même, mais il y a une modification dans la lecture du message, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une modification épigénétique, c'est une modification qui ne modifie pas le texte génétique, mais qui fait qu'il s'exprime de façon différente.
Alors je vous propose de marquer une courte pause, François Cuisin, et on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission, et là vous allez pouvoir nous expliquer l'épigénétique et puis le rôle que va jouer l'ARN, le cousin, le vague cousin de l'ADN. À tout de suite.
partager le savoir, c'est la découverte avec nos journalistes de la présence de la langue française dans le monde. Avec Christa Leuc, vous rencontrez les directeurs des Alliances françaises. Avec Marianne Durand-Lacaze, vous vivez l'expérience et l'engagement des professeurs de française à l'étranger. Avec Françoise Thibault, vous visitez les universités du monde. Partagez le savoir en direct ou en médiathèque sur Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de François Cuisin, membre de l'Académie des sciences et généticien. Alors, on vient de se quitter et vous nous avez fait part d'un mot barbare, l'épigénétique. Alors, vous allez pouvoir nous en parler plus en détail et nous faire peut-être la différence entre paramutation, un terme que vous avez employé de nombreuses fois lors de notre première partie. Quelle est la différence entre paramutation et épigénétique, François Cuisin ?
Le terme épigénétique est très à la mode aujourd'hui dans le milieu des généticiens. Est en fait un terme relativement vague et en science on doit se méfier des termes dont la définition est très large et donc très vague. On parle d'épigénétique chaque fois que le texte génétique qui est à la base, on le sait depuis longtemps, écrit dans la molécule d'ADN sous forme d'une séquence de bases, on sait des quatre bases classiques depuis Watson Crick, ce texte peut être lu de manière différente et on a donc des gènes qui vont être exprimés ou ne pas être exprimés ou être exprimés de manière différente. Et la base, c'est quelque chose qui est relativement banal parce qu'on sait depuis longtemps que dans nos cellules, il est clair que dans une cellule neurone dans le cerveau ou une cellule glandulaire ou une cellule de peau, on n'a pas les mêmes gènes qui sont exprimés. Donc on a des gènes qui, sans être modifiés, vont être ou non exprimés. Alors on peut parler là d'épigénétique, certains le font. On retrouve la notion qui date de Jacob et Monod dans les années 60, c'est-à-dire la notion de régulation de l'expression des gènes, simplement. Alors la paramutation, telle qu'elle avait été définie chez le maïs et puis chez d'autres plantes, très largement étudiée depuis chez les plantes, c'est quelque chose qui est beaucoup plus strict dans sa définition. C'est une modification de l'expression du texte génétique encore, mais qui n'implique pas donc de changement, contrairement à la mutation, n'implique pas de changement de l'ordre des bases dans le texte lui-même, mais la manière dont il est lu. Et la paramutation est une modification qui est héréditaire. C'est très important. Et c'était le cas, on n'a pas mentionné, on en arrivait là, dans l'exposé précédent. Le gène qui est ainsi modifié, dans le cas de nos souris, est transmis à la descendance en tant que telle. En d'autres termes, ces souris qui n'ont plus le gène mutant, mais qui conservent la queue blanche et les pattes blanches, font des petits entre elles, ou croisées avec une souris vraiment purement sauvage, toute noire, elle va transmettre, faire une descendance qui aura de nouveau la queue blanche et les pattes blanches.
Donc c'est au bout de quelques générations que ça va se perdre, cette information.
Ça se perdra, c'est un drap progressif, sauf si on les recroise avec le gène mutant, on va réactiver le système. Si elles sont entre elles, au bout de 2-3 générations, on voit que la partie blanche de la queue diminue de taille et que finalement, on va revenir au type sauvage, ce qui montre bien qu'il n'y a pas eu une modification permanente du gène. C'est le point très important, c'est cette hérédité. Par contre, l'hérédité est plus efficace en termes mendéliens. On a toujours les fameuses fractions de Mendel qui reçoivent ou non un caractère donné. Là, ces souris vont transmettre avec ce qu'on appelle dans notre jargon une fréquence non mendélienne, c'est-à-dire que toutes les souris de la descendance vont avoir la queue blanche, ce qui n'est pas du tout prévu par les lois de Mendel. Donc on a une forme d'hérédité assez particulière qui est cette hérédité de type paramutation. Alors ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, parce que déjà, le généticien des plantes, encore une fois, le connaissent depuis pas mal d'années.
Alors, l'ADN, on sait que c'est ce qui permet de transmettre des informations de type héréditaire, la couleur des cheveux, la couleur des yeux ou d'autres types d'informations. Et vous avez pu mettre en évidence que l'ADN non seulement transmettait de l'information de ce type, mais également l'ARN, l'acide ribonucléique. Vous allez pouvoir peut-être aussi nous expliquer très simplement quelle est la différence entre ADN et ARN. L'ARN pouvait également transmettre des informations de ce type et dans ce cas pourrait jouer dans ce que vous nous avez expliqué sur ces fameuses souris aux pattes blanches et à la queue blanche.
Oui, c'est une manière... Disons, l'acide ribonucléique, c'est un composant qu'on connaît depuis très longtemps de la cellule. On sait, depuis, encore une fois, les années 60, avec la découverte du code génétique, que l'ARN joue un rôle fondamental dans l'expression du génome. C'est que les gènes, pour que l'information qui est dans nos gènes soit traduite, finalement, au niveau d'un caractère visible, il faut le plus souvent qu'il y ait la synthèse d'une protéine, d'un enzyme, très souvent. Cette synthèse est gouvernée par une molécule dite ARN messager, qui est une copie du gène et qui va être utilisée par un système lui-même composé d'autres molécules d'acide ribonucléique qui va aboutir à la synthèse donc d'une protéine particulière correspondant à une séquence donnée dans l'ADN au départ. Ça, c'est le rôle général de l'ARN. On s'est aperçu depuis, dans une période très récente, que l'ARN pouvait jouer d'autres rôles, et en particulier gouverner l'expression de certains gènes. Ça, c'est une notion qui est apparue très récemment avec la découverte d'une classe qu'on appelle les micro-ARN, qui sont des très petites molécules d'ARN, très nombreuses, plusieurs centaines qui sont faites dans chacune de nos cellules. Et chacune de ces molécules micro-ARN, du fait d'une séquence particulière de base, puisque l'ARN comme l'ADN est formé d'une séquence linéaire des mêmes bases pratiquement, à de petites différences près, chacun de ces micro-ARN va contrôler, régler l'expression d'un gène ou d'un ensemble de gènes, pas petit nom, parce que ça peut être plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de gènes qui sont impliqués dans le même processus physiologique et qui vont être, dont l'activité va être gouvernée par ces micro-ARN. Ces micro-ARN, on en a repéré, ça date de ces toutes dernières années, deux modes d'activité, soit en bloquant la traduction en protéines d'un ARN messager, soit en induisant la dégradation de cet ARN messager.
Alors là, vous dites les choses avec beaucoup de calme et très simplement, mais c'est quand même une information très importante, c'est une petite révolution scientifique.
C'est une information très importante qui a été le fait de toute une série de laboratoires, ce sera pour un prix Nobel à venir probablement, mais ça a été une découverte très importante qui a été faite par plusieurs groupes, notamment aux États-Unis comme d'habitude.
Et vous avez publié un article dans Nature très récemment.
La question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce que cette modification, pour en revenir à nos souris, pouvait être transmise. On sait qu'elle est transmise par le père comme par la mère.
Alors l'information des pattes blanches et de la queue blanche, on est bien d'accord?
Tout à fait. Et là, cette paramutation étant transmise par le père ou par la mère, ça implique qu'il y ait un signal qui n'est pas la structure de l'ADN elle-même, qui est un signal qui va être transmis à la descendance. La cellule sexuelle femelle, l'ovocyte, est très compliquée à étudier. D'abord parce qu'il y en a très peu, parce que c'est dans l'ovaire, etc. Et que l'ovocyte a une structure très complexe.
Par contre, le spermatozoïde, lui,
dont on sait qu'il transmet très efficacement ce caractère de queue blanche et de patte blanche, a en principe une structure plus simple. C'est un petit paquet d'ADN. Et jusqu'ici, on considérait, jusqu'à récemment, que la fonction du père était simplement de transmettre un ensemble de gènes, une copie du génome.
Et en fait, pas seulement.
Donc, il doit y avoir autre chose que ce qui est transmis par le spermatozoïde Et en regardant, donc, en analysant les spermatozoïdes de nos souris paramutées, comme on dit.
Au microscope électronique.
En particulier en microscopie électronique, grâce à une installation très performante dans notre université qui a été développée par un de nos collègues, qui est un microscopiste expert, et qui a pu établir pour nous que les spermatozoïdes qui transmettaient ce caractère, contrairement aux spermatozoïdes normaux de souris, étaient bourrés littéralement de molécules d'ARN.
Alors en quoi ceci est une information capitale dans les recherches sur la génétique,
ben, la question Fusan. C'est quand même, là on a une différence très claire entre l'ARN, entre le spermatozoïde de la souris normale qui contient de l'ARN mais très peu, et ces souris modifiées dont le spermatozoïde est encore une fois bourré d'ARN.
Contient
donc
beaucoup d'ARN.
Donc là, ce qu'on voudrait savoir, c'est quel est cet ARN d'une part, et est-ce que c'est vraiment cet ARN qui est le signal qui induit cette paramutation? Donc nous sommes attelés à ce problème, et en fait on a pu le résoudre par une expérimentation, encore une fois ma collègue Minora Sultadegan, une expérimentatrice reconnue brillante, et qui a en fait pu préparer cet ARN à partir des spermatozoïdes de souris, séparés de l'ADN, et injecter cet ARN, un système qu'on appelle micro-injection, qu'on utilise en routine pour fabriquer ce qu'on appelle des animaux transgéniques. Normalement, on rajoute un gène en injectant avec tout un appareillage dans l'œuf qui vient d'être fécondé, c'est-à-dire dans le tout premier stade de l'embryon est encore une seule cellule.
La division des cellules.
Et on va donc injecter ici, non pas de l'ADN comme transgénèse normalement, mais ces molécules d'ARN extraites du sperme. Et on constate que si ces embryons ainsi traités sont ensuite remis, replacés dans l'utérus d'une mère porteuse pour poursuivre leur développement,
les souris
qui naissent ont la queue blanche et les pattes blanches, et ce qui est le plus important, vont à leur tour transmettre à la descendance, sur les premières générations en tout cas, ce caractère.
Toutes les souris qui ont eu cette injection d'ARN quand elles sont à l'état encore de cellules auront ce caractère des pattes blanches et de la queue blanche, toutes les souris?
Non, pas toutes, mais une
un très fort pourcentage.
50% en gros. Ce
qui permet donc de valider cette hypothèse que l'ARN transmet des informations.
Alors, de quel ARN il s'agit? On s'est aperçu qu'il y avait là deux types de molécules d'ARN qui sont d'une part des ARN messagers provenant du gène qui nous intéresse, mais des ARN messagers très anormaux qui ont été fragmentés. Et donc, cette fragmentation des ARN, comme on sait que c'est une fonction de micro-ARN, comme je l'ai dit précédemment, comme on connaît deux micro-ARN, en fait, dans la collection, dont on sait par l'analyse à l'ordinateur qu'ils sont capables de reconnaître le messager du gène qui nous intéresse, elle a injecté dans l'œuf les micro-ARN en question, et les micro-ARN en question sont par eux-mêmes extrêmement efficaces pour induire la paramutation. Donc, alors, est-ce que le micro-ARN agit directement ou est-ce qu'il agit via... Enfin, il agit de toute façon, mais son action peut être fragmenter l'ARN du gène au niveau déjà de l'œuf au départ.
Oui.
Et c'est peut-être là qu'est l'origine de la paramutation. C'est ce que nous essayons de débrouiller actuellement, pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est que ces ARN sont extrêmement efficaces.
Mais alors, ça, c'est valable pour la souris. Est-ce que ce serait valable pour l'homme également?
Alors, ça, c'est la grande question. La première question, toutefois, avant celle-là, ça serait, est-ce que c'est limité à ce gène particulier? S'il s'agit simplement de transmettre une queue blanche, ça peut avoir un intérêt, mais ça restera un intérêt limité.
Très limité.
En fait, dans nos travaux actuels qui sont en cours et qui ne sont pas publiés, nous savons déjà, et le principe de ces expériences a été maintenant de pratiquer ces expériences d'injection dans l'œuf avec d'autres micro-ARN, et en particulier de deux que nous avons sélectionnés, un qui est exprimé normalement dans le cœur, un qui est exprimé dans le cerveau, et à chaque fois, nous avons des souris anormales qui sont produites, des souris modifiées.
Donc qui réagissent bien.
Et qui vont transmettre de nouveau, par un système non mendélien, un caractère particulier. Dans un cas, on a des souris qui ont une hypertrophie du cœur. Et ça, c'est un défaut qu'on connaît chez l'humain et qui peut être très grave. Un cœur qui a une paroi beaucoup trop épaisse et qui n'arrive pas à fonctionner correctement. Dans l'autre cas, on a des souris qui ont une taille une fois et demie supérieure à la souris normale, qui croissent et qui vont avoir une activité sexuelle beaucoup plus tôt, qui ont un comportement modifié. Alors, quels sont les gènes qui sont touchés de là? C'est ce que nous essayons. Nous avons déjà des premières indications dans ce sens, mais qui nous disent que ce phénomène de modulation de l'expression des gènes pour créer donc cet état héréditaire d'hyperamutation est quelque chose qui n'est pas limité aux gènes de départ qui donne cette queue blanche là, mais qui est d'autres gènes. Et de façon encore plus intéressante, pour nous en tout cas, nous venons de voir un cas très particulier qui sont des souris avec un micro-ARN dont un groupe américain venait de montrer qu'on le trouve accumulé dans un cancer chez l'homme. Qui est un carcinome de la thyroïde.
Alors je vous propose de marquer une courte pause, François Cuisin, et on va pouvoir aborder cette question plus large, les origines de ces maladies finalement, puisque c'est sur quoi vous travaillez. Je vous propose de marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite
volontiers.
Après pour la fin de notre émission. Merci.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de François Cuisin, membre de l'Académie des sciences et généticien, on s'est quitté sur cette fonction de l'ARN qui pouvait transmettre également de l'information, comme son cousin l'ADN. Et parmi les informations, vous parliez justement donc d'anomalies, hein, en tout cas concernant les souris, puisque vous travaillez sur les souris. Et notamment, vous commenciez à parler de cancer. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces cancers qui donc seraient, pour une partie, d'origine héréditaire, François Cuisin?
Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que ce sont des choses très récentes et le travail en cours actuellement. Donc on pourra en dire plus dans quelques mois, voire quelques années. En fait, donc un premier point que nous sommes maintenant sûrs, c'est que ce type d'hérédité ne se limite pas à la couleur de la queue des souris, qui aurait été un tout petit peu différent, mais peut affecter d'autres caractères. Pour beaucoup de maladies, on sait que ces maladies sont dues à un défaut de fonctionnement d'une protéine, c'est-à-dire finalement d'un gène.
C'est d'origine génétique,
tout
simplement.
On en a beaucoup d'exemples, c'est depuis très longtemps. Et dans certains cas, on le sait, ce qu'on appelle les maladies génétiques, qui sont ces défauts étant transmis du fait d'une modification de structure du gène. Le défaut est transmis à la descendance de génération en génération. On sait malheureusement pour des maladies très graves, musculaires, neurologiques, etc.
Mais là, ce n'est pas la structure du gène qui
Alors,
est concernée.
Là, la notion qu'on peut apporter avec la paramutation, c'est qu'on peut avoir une transmission héréditaire sans que la structure du gène soit modifiée. On a une altération de l'expression du gène et non pas de sa structure. Alors, la notion que nous apportons, c'est le fait que les molécules d'ARN sont impliquées dans le transfert héréditaire, en particulier, mais ça sera évidemment pas limité aux spermatozoïdes. Cette notion est intéressante pour l'extension à l'humain, dans la mesure où depuis quelques années, plusieurs groupes aux États-Unis ont observé que le spermatozoïde humain contient une charge importante de molécules d'ARN.
Voilà, c'est ce que vous nous dites dans la seconde
ça,
partie.
Ça, c'est une notion qui a mis du temps à être acceptée et confirmée, mais qui est maintenant bien claire, très récemment. Et nos collègues qui avaient fait cette découverte se sont longuement interrogés et on spécule encore beaucoup aujourd'hui sur les fonctions possibles de cet ARN, mais sans avoir quelque chose de précis autre que des hypothèses et certainement pas en tout cas l'hypothèse d'induire une modification épigénétique ou une paramutation. Ils n'avaient pas les éléments pour ça. Maintenant, il y a des éléments dans ce sens-là. Donc, une des questions, c'est qu'est-ce qu'il y a comme micro-ARN ou comme autres ARN dans un spermatozoïde humain. Et pour des raisons, on n'a pas le temps de développer ici, cette étude est particulièrement difficile parce que nous sommes, nous, notre espèce, représentant une collection de mutants. Je disais tout à l'heure qu'un des grands traits de génie de Mendel, ça avait été de partir d'organismes dont tous les gènes sont identiques deux par deux. Dans notre espèce, comme nous nous croisons par définition, pas en frère-sœur ou parent-enfant, mais au contraire qu'on a un brassage continu, nous avons une structure du génome qui est très complexe où nos gènes sont réassortis, ce qui complique beaucoup les choses pour le généticien. Alors en plus, le généticien qui s'intéresse à l'hérédité chez l'homme a la difficulté qu'on n'a que des informations limitées à un très petit nombre de générations. Il faut trouver les familles où on a une transmission héréditaire ou supposée héréditaire. On n'a en général qu'un petit nombre de descendants, contrairement à la souris ou d'autres organismes, on peut en avoir des centaines. Et l'analyse, c'est très difficile de tirer des conclusions. On peut le faire, mais c'est un travail énorme. Et ce que ce travail a indiqué, c'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, on a le généticien classe sous forme hérédité non mendélienne, la transmission à la descendance d'un certain nombre de caractères pathologiques. Ça a été trouvé aux États-Unis pour une prédisposition au diabète. Et ça a été également trouvé,
c'est ce qui est cité dans l'article
qui nous a attiré notre attention, c'est un travail d'un groupe américain en Californie qui a décrit, sur la base d'un travail antérieur de généticiens suédois, que certaines formes de cancer de la thyroïde paraissaient avoir une certaine forme d'hérédité. C'est-à-dire qu'on trouvait plus fréquemment ce cancer chez des personnes reliées au premier degré, c'est-à-dire frères-sœurs, parents-enfants, on avait un taux de survenue du cancer qui était plus fréquent que ça disait la statistique.
Cette notion d'hérédité, on l'a aussi pour d'autres cancers, donc, le cancer du sein,
hérédité,
ou
mais
cancer...
Il n'y a aucune évidence d'une hérédité mendélienne. Premier point. Et ce que le groupe américain a ajouté en plus, c'est que les cellules cancéreuses étaient caractérisées par la présence d'un micro-ARN particulier qui était présent en beaucoup plus grande quantité que la normale. Et ils ont même proposé, ça c'est un travail qui date qui a été publié il y a quelques mois, que la présence de ce micro-ARN pouvait être utilisée comme un signe diagnostique du cancer. Donc tellement l'association était forte.
Ce que ça signifie également, c'est que vous nous avez parlé longuement du spermatozoïde et qu'il pouvait porter également pas mal d'ARN. Ça veut dire que même avant la fécondation, le futur embryon, le futur œuf fécondé aura une prédisposition plus ou moins importante à développer une fois à la naissance un cancer ou un diabète.
Tout à fait, c'est une excellente question. Et on peut y revenir.
Merci.
Simplement, si vous voulez, pour terminer avec la donnée expérimentale telle qu'elle est actuellement, c'est que lorsque l'on a pratiqué la micro-injection chez la souris de ce même micro-ARN, qui a la même structure chez la souris et chez l'homme, un des caractères, ces micro-ARN, c'est comme on dit en génétique, d'être hautement conservé, c'est-à-dire la souris, le ver, l'homme, la mouche ont le même stock de micro-ARN. Donc on a pris ce même micro-ARN injecté dans l'embryon de souris, et les souris, il se trouve qu'on avait fait l'expérience, et heureusement, pour d'autres raisons, à l'avance, parce qu'il faut attendre, comme dans beaucoup de cas de développement, le cancer est une maladie qui se développe. On a une prédisposition au cancer qui est peut-être déjà inscrite à la naissance, mais qui ne se développera que beaucoup plus tard.
Des événements
particuliers. En fait, ce sont des souris qui ont atteint un âge respectable. Plus d'un an pour la souris, ce qui est déjà un âge 50-60 ans peut-être.
D'accord,
oui.
Pour l'homme.
Et là, qui est l'âge auquel on voit apparaître le cancer chez l'humain en grande quantité. Et toutes les souris qui avaient subi cette micro-injection d'un micro-ARN particulier ont développé effectivement des cancers de la thyroïde très caractéristiques. Et on ne sait pas encore, mais on va le savoir. Prédiction, c'est qu'elles vont transmettre ce caractère à leur descendance, au moins sur quelques générations. Et ceci recoupe l'observation chez l'humain, où on a cette haute fréquence chez des enfants ou des frères et sœurs, et sans indication d'une transmission stricte. Alors, la question de savoir qu'est-ce qui va se passer, effectivement, au niveau de l'œuf, où on pratique la micro-injection, c'est vrai aussi déjà au départ pour les souris à queue blanche, parce qu'au niveau de l'œuf, il n'y a pas de queue ni de patte. Et c'est seulement quand ces queues, c'est après la naissance, la souris naît imberbe, si on peut dire, sans poils, c'est seulement beaucoup plus tard qu'on va avoir inscription, modification dans le génome qui est maintenue à travers les divisions cellulaires pendant tout le développement et qui va finir par s'exprimer à un moment donné du développement.
Mais là, vous parlez des travaux américains. Vous, vos travaux également portent sur cette partie-là ?
Oui, nous cherchons à savoir quelle est la modification induite dans le génome. Et comme on dit, nous ne sommes pas seuls sur la question. Mais nous avons en main la possibilité d'avoir au moins des systèmes expérimentaux qui devraient nous permettre d'avancer sur ce point où on en est actuellement. Les pistes, si vous voulez, c'est qu'on sait que l'expression des gènes, ça on le sait depuis au cours en particulier de la période récente, par toute une série de travaux de laboratoires à travers le monde, l'expression d'un gène dépend du fait que dans le génome, dans nos chromosomes, une région donnée de l'ADN est associée à des protéines et d'ailleurs également à des molécules d'ARN particulières dans les structures qu'on appelle la chromatine. Et que ces structures de chromatine sont différentes entre les gènes qui sont ou qui ne sont pas exprimés ou qui sont exprimés dans certaines conditions ou dans d'autres. Donc le schéma général sur lequel nous travaillons, c'est que en fait le micro-ARN ou les ARN fragmentés qu'il a induits vont localement induire un changement de structure de ces complexes très compliqués qui vont être ensuite stabilisés et maintenus à travers les générations. Et qu'on aura une modification de l'expression du gène qui va se traduire, elle, des années après, parce que pour qu'il y ait cancer, par exemple, il faut que d'autres modifications, on sait que le cancer est une maladie multifactorielle, comme on dit dans nos jargons, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup de causes qui s'accumulent et que ça prend des années, ce qui est la raison pour laquelle les tumeurs vont pas se produire immédiatement. Mais on aura induit, en fait, non pas le cancer, mais un état précancéreux, un état de prédisposition
au cancer. Alors, pour terminer cette émission, puisque nous allons bientôt terminer cette émission, François Cuzin, vous allez axer vos travaux plus particulièrement sur la recherche concernant les cancers au niveau de ces micro-ARN. Quelle est la suite à venir concernant votre laboratoire, laboratoire dans lequel vous travaillez à Nice ?
Écoutez, là, vous savez, le chercheur, au niveau où nous travaillons,
en tout cas, c'est un
nous n'avons
part,
pas les contraintes de la recherche appliquée qui sont très nécessaires et qui font que nos collègues qui travaillent en recherche médicale ou pharmacologique, il faut qu'ils avancent sur un sujet donné. Nous, notre situation de fondamentaliste, c'est d'être ce que les Américains appellent « curiosity driven », ce qui veut dire « guidé par notre curiosité ». Comme ça que nous avons posé la question de ces pattes blanches. Et nous allons, dans les systèmes que nous avons, choisir celui qui nous permettra de préciser, de répondre à certains points, parce qu'il est clair que certains systèmes, certains gènes, compte tenu des connaissances qu'on a par ailleurs, que du travail d'autres groupes, vont se prêter plus ou moins bien, par exemple, à la question que vous avez posée de savoir quelle est la modification induite dans le génome, ou de savoir quelles vont être les conséquences pathologiques. Il est clair que nous ne pouvons pas nous désintéresser nous sommes une unité de l'INSERM, qui est l'institut en charge de la recherche médicale.
Oui.
Donc nous cherchons à donner à nos collègues de la recherche clinique qui travaillent au plus près du malade, en particulier des outils pour pouvoir identifier, voire prédire, pour le conseil génétique dans des familles à risque, pour la pathologie, pour identifier tel ou tel type de tumeur. Et il est clair que l'identification des micro-ARN, et en particulier des micro-ARN du sperme humain sur lequel nous sommes en train de concentrer nos travaux et d'établir les collaborations nécessaires pour ça avec les découvreurs de l'ARN du sperme humain, c'est une des pistes que nous entendons suivre. C'est à la fois un équilibre où nous sommes sur une jambe dans le domaine fondamental où nous cherchons simplement à accroître nos connaissances, mais d'un autre côté avec toujours cette perspective de regarder vers la recherche médicale, parce que c'est finalement ce que la société nous demande, et tout particulièrement le contribuable, au niveau des budgets de l'Agence pour la recherche,
voilà,
l'Agence
pour la recherche,
des donateurs de la Ligue nationale française contre le cancer, qui a été une aide tout à fait importante pour nous. Et donc, la perspective médicale reste au centre de nos préoccupations.
Alors voilà, c'était la question que je voulais vous poser. Vous avez très bien répondu. Donc, vos partenaires vous aident, en tout cas, c'est bien sûr l'INSERM, puisque votre laboratoire en dépend. C'est également l'ANR, l'Agence nationale de la recherche.
On a un soutien essentiel de l'INSERM, en particulier parce que l'INSERM paye des salaires et qu'on a besoin de collaborateurs techniques à toutes sortes de niveaux, depuis le lavage des cages dans l'animalerie, les soins des souris, jusqu'à des ingénieurs de recherche pour des travaux très sophistiqués de biologie moléculaire. Et ça, il n'y a que l'INSERM qui peut nous fournir, évidemment, un personnel stable, compétent, et on a toujours été, en grâce très volontiers, à la direction de l'INSERM qui nous a soutenus très efficacement.
L'Agence nationale pour la recherche également.
En dehors de ça, il faut des équipements. Là, l'INSERM participe, mais d'autres sources également, notamment les instances régionales qui deviennent de plus en plus importantes. Et il faut ce qu'on appelle des crédits de fonctionnement qui sont considérables, parce qu'il faut acheter des souris, il faut acheter des réactifs, il faut acheter des molécules marquées, il faut acheter etc. Et ça, c'est des dépenses très très lourdes pour lesquelles là, des crédits des associations, tout particulièrement de la Ligue nationale française contre le cancer, ont été absolument essentielles. C'est au niveau de ces crédits de fonctionnement qu'on va dépendre de ce type de partenariat qui fait appel à la générosité des donateurs et donateurs auxquels, bien entendu, nous nous sentons obligés de rendre des comptes. J'espère que
eh bien,
une émission dans le genre de la vôtre peut les éclairer sur l'utilité de ce genre de contribution.
D'où le titre de notre émission Éclairage. En tout cas, c'est gentil à vous d'avoir fait le déplacement et d'être venu jusqu'à nous. Donc, je rappelle quand même vos fonctions. Vous êtes généticien, François Cuisin, et vous travaillez à l'unité génétique moléculaire de la différenciation et du développement à l'INSERM. Et vous avez pu donc nous expliquer ce nouveau mode d'hérédité qui est donc non mendélienne, si on veut utiliser le terme un peu scientifique, on va dire. Vous souhaitez rajouter quelque chose, non?
Juste un tout petit point pour satisfaire notre directeur général de l'INSERM. Le titre que vous avez mentionné, je ne l'avais pas réalisé, c'était le titre de l'unité INSERM au temps où j'en étais directeur. Elle s'appelle maintenant génétique du développement normal et pathologique, ce qui a un petit peu changé. C'est simplement pour être en règle avec l'administration.
Alors voilà, vous m'excuserez auprès du directeur actuel. Je renvoie nos auditeurs au site internet de l'Université de Nice, sur lequel on pourra également trouver des informations concernant cette unité. Et puis également, je renvoie au site de l'Académie des sciences où on peut trouver plus d'informations vous concernant, François Cuisin. En tout cas, merci de nous avoir éclairé sur ce sujet. Maintenant, on en sait plus sur ces fameux micro-ARN qui également nous donnent des informations concernant notre hérédité. Et peut-être qu'on en saura plus dans quelques années ou dans quelques mois, pourquoi pas, sur les cancers, le diabète en tout cas. Merci beaucoup d'être venu nous voir et puis à très bientôt peut-être pour une nouvelle émission.
Merci à vous et très volontiers.
Merci, au revoir.